Frédéric Nietzsche, Humain trop humain, le voyageur et son ombre. 23. Les partisans de la doctrine du libre arbitre ont-ils le droit de punir? Les hommes qui, par profession, jugent et punissent, cherchent à fixer dans chaque cas particulier si un criminel est responsable de son acte. S'il a pu se servir de sa raison, s'il a agi pour obéir à des motifs et non pas inconsciemment ou par contrainte. Si on le punit, c'est d'avoir préféré les mauvaises raisons aux bonnes raisons qu'il devait connaître. Lorsque cette connaissance fait défaut, conformément aux idées dominantes, l'homme n'est pas libre et pas responsable, à moins que son ignorance, par exemple, son ignorance de la loi, ne soit la suite d'une négligence intentionnelle de sa part. C'est donc autrefois déjà, lorsqu'il ne voulait pas apprendre ce qu'il devait, qu'il a préféré les mauvaises raisons aux bonnes, et c'est maintenant qu'il pâtit des conséquences de son choix. Si, par contre, il ne s'est pas aperçu des meilleures raisons, par hébétement ou idiotie, on n'a pas l'habitude de le punir. On dit alors qu'il ne possédait pas le discernement nécessaire, qu'il a agi comme une bête. La négation intentionnelle de la meilleure raison, c'est là, maintenant, la condition que l'on exige pour qu'un criminel soit digne d'être puni. Mais comment quelqu'un peut-il être intentionnellement plus déraisonnable qu'il ne doit l'être? Qu'est-ce qui le décidera lorsque les plateaux de la balance sont chargés de bons et de mauvais motifs? Ce ne sera ni l'erreur, ni l'aveuglement, ni une contrainte intérieure, ni une contrainte extérieure. Il faut d'ailleurs considérer que ce que l'on appelle contrainte extérieure n'est pas autre chose que la contrainte intérieure de la crainte et de la douleur. Qu'est-ce alors serait-on en droit de demander? La raison ne doit pas être la cause qui fait agir, parce qu'elle ne saurait décider contre les meilleurs motifs. C'est ici que l'on appelle en aide le libre arbitre. C'est le bon plaisir qui doit décider et faire intervenir un moment où nul motif n'agit, où l'action s'accomplit comme un miracle sortant du néant. On punit cette prétendue discrétion dans un cas où nul bon plaisir ne devrait régner. La raison qui connaît la loi, l'interdiction et le commandement n'aurait pas dû laisser de choix, pense-t-on, et agir comme contrainte et puissance supérieure. Le criminel est donc puni parce qu'il a agi sans raison, alors qu'il aurait dû agir conformément à des raisons. Mais pourquoi s'y est-il pris ainsi? C'est précisément cela que l'on n'a plus le droit de demander. Ce fut une action sans pourquoi, sans motif, sans origine, quelque chose qui n'avait ni but ni raison. Pourtant, conformément aux conditions de pénalité énoncées plus haut, on n'aurait pas non plus le droit de punir une pareille action. Aussi, ne peut-on pas faire valoir cette façon de pénalité? Il en est comme si l'on n'avait pas fait quelque chose, comme si l'on avait omis de la faire, comme si l'on n'avait pas fait l'usage de la raison. Car, à tous égards, l'omission s'est faite sans intention. Et seules sont punissables les omissions intentionnelles de ce qui est ordonné. À vrai dire, le criminel a préféré les mauvaises raisons aux bonnes, mais sans motif et sans intention. S'il n'a pas fait usage de sa raison, ce n'était pas précisément pour ne pas en faire usage. L'hypothèse que l'on fait chez le criminel, qui mérite d'être puni, l'hypothèse que c'est intentionnellement qu'il a renié sa raison, est justement supprimée si l'on admet le libre arbitre. Vous n'avez pas le droit de punir, vous qui êtes partisan de la doctrine du libre arbitre, vos propres principes vous le défendent. Mais ces principes ne sont en somme pas autre chose qu'une très singulière mythologie des idées. Et la poule qui la couvait se trouvait loin de la réalité lorsqu'elle couvrait ses œufs. 24. Pour juger le criminel et son juge. Le criminel qui connaît tout l'enchaînement des circonstances ne considère pas, comme son juge et son censeur, que son acte est en dehors de l'ordre et de la compréhension. Sa peine, cependant, lui est mesurée exactement selon le degré d'étonnement qui s'empare de ceux-ci en voyant cette chose incompréhensible pour eux, l'acte du criminel. Lorsque le défenseur d'un criminel connaît suffisamment le cas et sa genèse, les circonstances atténuantes qu'il présentera, les unes après les autres, finiront nécessairement par effacer toute la faute. Ou, pour l'exprimer plus exactement encore, le défenseur atténuera degré par degré cet étonnement qui veut condamner et attribuer la peine. Il finira même par le supprimer complètement en forçant tous les auditeurs honnêtes à s'avouer dans leur fort intérieur. Il lui fallut agir la façon dont il a agi. En punissant, nous punirions l'éternelle fatalité. Mesurer le degré de la peine selon le degré de la connaissance que l'on a ou peut avoir de l'histoire d'un crime, n'est-ce pas contraire à toute équité? 25. L'échange et l'équité. Un échange ne pourrait se faire d'une façon honnête et conforme au droit que si chacune des deux parties ne demandait que ce qui lui semble être la valeur de son objet, en estimant la peine de l'acquérir, la rareté, le temps employé, etc., sans oublier la valeur morale que l'on y attache. Dès qu'elle fixe le prix par rapport aux besoins de l'autre, cela devient une façon plus subtile de brigandage et d'exaction. Si l'objet de l'échange est de l'argent, il faut considérer qu'un thaler dans la main d'un riche héritier ou d'un manœuvre, d'un négociant ou d'un étudiant, change complètement de valeur. Chacun pourra en recevoir plus ou moins, selon qu'il aura fourni un travail plus ou moins grand pour l'acquérir. C'est ainsi que ce serait équitable. Mais dans la réalité, on ne l'ignore pas, c'est absolument le contraire. Dans le monde de la haute finance, le thaler d'un riche paresseux rapporte plus que celui du pauvre et du laborieux. 26. Les conditions légales comme moyens. Le droit, reposant sur des traités entre égaux, persiste tant que la puissance de ceux qui se sont entendus demeure constante. La raison a créé le droit pour mettre fin aux hostilités et aux inutiles dissipations entre forces égales. Mais cette raison de convenance cesse tout aussi définitivement quand l'un des deux parties est devenu sensiblement plus faible que l'autre. Alors, la soumission remplace le droit qui cesse d'exister. Mais le succès est le même que celui que l'on atteignait jusqu'ici par le droit. Car, dès lors, c'est la raison de celui qui l'emporte qui conseille de ménager la force de l'assujetti et de ne pas la gaspiller inutilement. Et souvent, la condition de l'assujetti est plus favorable que celle où se trouvait l'égal. Les conditions légales sont donc des moyens passagers que conseille la raison. Ce ne sont pas des buts. 27. Explication de la joie maligne. La joie maligne que l'on éprouve en face du mal d'autrui provient du fait que chacun se sent mal en point sous bien des rapports qu'il a, lui aussi, ses soucis, ses remords, ses douleurs, et qu'il ne les ignore pas. Le dommage qui touche l'autre fait de lui son égal, il réconcilie sa jalousie. S'il a des raisons momentanées pour être heureux lui-même, il n'en accumule pas moins les malheurs du prochain, comme un capital dans sa mémoire, pour le faire valoir dès que, sur lui aussi, le malheur se met à fondre. C'est là également une façon d'avoir une joie maligne. Le sentiment de l'égalité veut donc appliquer sa mesure au domaine du bonheur et du hasard. La joie maligne est l'expression la plus vulgaire par quoi se manifeste la victoire et le rétablissement de l'égalité, même dans le domaine du monde supérieur. Ce n'est qu'à partir du moment où l'homme a appris à voir, dans les autres hommes, ses égaux, donc seulement depuis la fondation de la société, qu'existe la joie maligne. 28. Ce qu'il y a d'arbitraire dans l'attribution du châtiment. Chez la plupart des criminels, les punitions viennent comme les enfants viennent aux femmes. Ils ont fait 10 et 100 fois la même chose sans en ressentir de suite fâcheuse. Mais soudain, ils sont découverts et le châtiment suit de près. L'habitude devrait pourtant faire paraître excusable la faute pour laquelle on punit le coupable. C'est un penchant formé peu à peu et il est difficile de lui résister. Au lieu de cela, lorsque l'on soupçonne le crime par habitude, le malfaiteur est puni plus sévèrement. L'habitude est donnée comme raison pour rejeter toute atténuation. Au contraire, une existence modèle qui fait ressortir le délit avec d'autant plus d'horreur devrait augmenter le degré de culpabilité. Mais pas du tout. Elle atténue la peine. Ce n'est donc pas au crime que l'on applique les mesures, mais on évalue toujours le dommage causé à la société et le danger couru par celle-ci. L'utilité passée d'un homme lui est comptée parce qu'il ne s'est rendu nuisible qu'une seule fois. Mais si l'on découvre, dans son passé, d'autres actes d'un caractère nuisible, on les additionne à l'acte présent pour infliger une peine d'autant plus grande. Mais si l'on punit, on récompense de la sorte le passé d'un homme. La punition minime n'est, dans ce cas, qu'une récompense. On devrait retourner encore plus loin en arrière et punir et récompenser ce qui fut la cause d'un pareil passé. Je veux dire, les parents, les éducateurs, la société elle-même, etc. On trouvera alors que dans beaucoup de cas, le juge participe d'une façon ou d'une autre à la culpabilité. Il est arbitraire de s'arrêter au criminel lorsque l'on punit le passé. On devrait s'en tenir à chaque cas particulier. Lorsque l'on ne veut pas admettre que toute faute est absolument excusable et ne point regarder en arrière, il s'agirait donc d'isoler la faute et de ne la rattacher en aucune façon à ce qui l'a précédé. Autrement, ce serait pécher contre la logique. Tirez plutôt, vous qui êtes partisan du libre arbitre, la conclusion qui découle nécessairement de votre doctrine et décrétez bravement « Nul acte n'a un passé ». 29. La jalousie est sa sœur plus noble. Dès que l'égalité est véritablement reconnue et fondée d'une façon durable, naît un penchant qui passe en somme pour immoral et qui, à l'état primitif, serait à peine imaginable. La jalousie. L'envieux se rend compte de toute prééminence de son prochain au-dessus de la mesure commune, et il veut l'y ramener, ou encore s'élever, lui, jusque-là. D'où il résulte deux façons d'agir différentes qu'Hésiode a désignées du nom de bonne et de mauvaise hérisse. De même, dans l'état d'égalité, naît l'indignation de voir qu'une personne qui se trouve à un niveau d'égalité différent a du malheur moins qu'elle n'en mériterait. tandis qu'une autre personne a du bonheur plus qu'elle n'est digne d'en avoir. Ce sont là des émotions particulières aux natures plus nobles. Celles-ci cherchent en vain la justice et l'équité dans les choses qui sont indépendantes de la volonté des hommes, c'est-à-dire qu'elles exigent que cette égalité reconnue par l'homme soit aussi reconnue par la nature et le hasard. Elles s'indignent que les égaux n'aient pas le même sort. 30. Jalousie des dieux. La jalousie des dieux naît lorsque quelqu'un qui est estimé inférieur se met en parité avec quelqu'un de supérieur, tel Ajax, ou lorsque, par une faveur du destin, cette mise en parité se fait d'elle-même, Niobé, mère trop heureuse. Dans l'ordre social, cette jalousie exige que personne n'ait de mérite au-dessus de sa situation, aussi que le bonheur soit conforme à celle-ci, et encore que la conscience de soi ne sorte pas des limites tracées par la condition. Souvent, le général victorieux subit la jalousie des dieux, et aussi le disciple, lorsqu'il a créé une œuvre de maître. 31. La vanité comme surpousse d'un état antisocial. Les hommes, ayant décrété qu'ils sont tous égaux, pour des raisons de sûreté personnelle, en vue de former une communauté, mais cette conception étant, en somme, contraire à la nature de chacun et apparaissant comme quelque chose de forcé, plus la sécurité générale est garantie, plus de nouvelles pousses du vieil instinct de prépondérance commencent à se montrer. Dans la délimitation des castes, dans les prétentions aux dignités et aux avantages professionnels, et en général dans les affaires de vanité, manière, costume, langage, etc. Mais dès que l'on commence à prévoir quelques dangers pour la communauté, le grand nombre, qui n'a pas pu faire valoir sa prépondérance dans les périodes de tranquillité publique, provoque de nouveau l'état d'égalité. Les absurdes privilèges et vanités disparaissent pour quelque temps. Si, cependant, la communauté sociale s'effondre complètement, si l'anarchie devient universelle, l'état naturel éclatera de nouveau. L'inégalité insouciante et absolue, comme ce fut le cas dans l'île de Corcyre, d'après le rapport de Thucydide. Il n'y a ni justice naturelle, ni injustice naturelle. 32. L'équité. L'équité est un développement de la justice qui naît parmi ceux qui ne pêchent pas contre l'égalité dans la commune. On l'applique à des cas où la loi ne prescrit rien, où intervient le sens subtil de l'équilibre qui prend en considération le passé et l'avenir et qui a pour maxime « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Aikoum veut dire précisément « C'est conforme à notre égalité. » L'équité aplanit nos petites différences pour rétablir l'apparence d'égalité et veut que nous nous pardonnions bien des choses que nous ne serions pas forcés de nous pardonner. 33. Élément de la vengeance. Le mot « vengeance » est vite prononcé. Il semble presque qu'il ne pourrait pas contenir plus qu'une seule racine d'idées et de sentiments. On s'applique donc toujours à trouver celle-ci, tout comme nos économistes ne se sont pas encore fatigués de flairer dans le mot « valeur » une pareille unité et de rechercher la racine fondamentale de l'idée de valeur. Comme si tous les mots n'étaient pas des poches où l'on a fourré tantôt ceci, tantôt cela, tantôt plusieurs choses à la fois. La vengeance est donc aussi tantôt ceci, tantôt cela, tantôt quelque chose de plus compliqué. On tâche donc de distinguer ce recul défensif que l'on effectue presque involontairement, comme si l'on était en face d'une machine en mouvement, même en face d'objets inanimés qui nous ont blessés. Le sens qu'il faut prêter à ce mouvement contraire, c'est de faire cesser le danger en arrêtant la machine. Pour arriver à ce but, il faut parfois que la riposte soit si violente qu'elle détruit la machine. Mais quand celle-ci est trop solide pour pouvoir être détruite d'un seul coup par un individu, celui-ci emploiera toute la force dont il est capable pour asséner un coup vigoureux, comme si c'était là une tentative suprême. On se comporte de même vis-à-vis des personnes qui vous blessent sous l'empire immédiat du dommage causé. Que l'on veuille appeler cela un acte de vengeance, fort bien. Mais il ne faut pas oublier que c'est seulement l'instinct de conservation qui a mis en mouvement le rouage de sa raison et qu'au fond, l'on ne songe pas à celui qui cause le dommage, mais seulement à soi-même. Nous agissons ainsi, non pas pour nuire de notre côté, mais seulement pour nous en tirer la vie sauve. On use du temps pour passer en imagination de soi-même à son adversaire et pour se demander de quelle façon on pourra le toucher à l'endroit sensible. C'est le cas dans la seconde façon de vengeance. Il faut envisager comme condition première la réflexion que l'on fait au sujet de la vulnérabilité et la faculté de souffrance de l'autre. Alors seulement on veut faire mal. Par contre, celui qui se venge ne songe pas encore à se garantir d'un dommage futur, au point qu'il s'attire presque régulièrement un nouveau dommage, qu'il prévoit d'ailleurs souvent avec beaucoup de sang-froid. Si, à la première espèce de vengeance, c'était la peur du second coup qui rendait la riposte aussi vigoureuse que possible, nous sommes par contre maintenant en face d'une complète indifférence à l'égard de ce que l'adversaire fera encore. La force de la riposte n'est déterminée que par ce que l'adversaire nous a déjà fait. Que nous importe qu'il souffre maintenant après que nous avons souffert par lui? Il s'agit d'une réparation. Tandis que l'acte de vengeance de la première espèce ne servait qu'à la conservation de soi. Peut-être notre adversaire nous a-t-il fait perdre notre fortune, notre rang, nos amis, nos enfants. La vengeance ne rachète pas ces pertes. La réparation ne se rapporte qu'à une perte accessoire qui s'ajoute à toutes les pertes mentionnées. La vengeance de la réparation ne garde pas des dommages futurs. Elle ne répare pas le dommage éprouvé, sauf dans un seul cas. Lorsque notre honneur a souffert par les atteintes de l'adversaire, la vengeance est à même de le rétablir. Mais ce préjudice lui a été porté de toute façon lorsque l'on nous a fait du mal intentionnellement, car l'adversaire a prouvé par là qu'il ne nous craignait point. Notre vengeance démontre que nous aussi nous ne le craignons point. C'est en cela qu'il y a compensation et réparation. L'intention d'afficher l'absence complète de crainte va si loin chez certaines personnes que le danger que la vengeance pourrait leur faire courir à elle-même, perte de la santé ou de la vie ou autre dommage, est considéré par elles comme une condition essentielle de la vengeance. C'est pourquoi elles suivent le chemin du duel, bien que les tribunaux leur prêtent leur concours pour obtenir satisfaction de l'offense. Cependant, elles ne considèrent pas comme suffisante une réparation de leur honneur où il n'y aurait pas un danger, parce qu'une réparation sans danger ne saurait prouver qu'elles sont dépourvues de crainte. Dans la première espèce de vengeance, c'est précisément la crainte qui effectue la riposte. Ici, par contre, c'est l'absence de crainte qui veut s'affirmer par la riposte. Rien ne semble donc plus différent que la motivation intime des deux façons d'agir, désignées par le même terme de vengeance, et malgré cela, il arrive très souvent que celui qui exerce la vengeance ne se rende pas exactement compte de ce qui l'a, en somme, poussé à l'action. Peut-être est-ce par crainte et par instinct de conservation qu'il a riposté. Mais après coup, ayant le temps de réfléchir au point de vue de l'honneur blessé, il s'est persuadé à lui-même que c'est à cause de son honneur qu'il s'est vengé. Ce motif est, en tous les cas, plus noble que le premier. Il y a encore un autre point de vue qui est important. C'est de savoir s'il considère son honneur comme endommagé aux yeux des autres, du monde, ou seulement aux yeux de l'offenseur. Dans ce dernier cas, il préférera la vengeance secrète. Dans le premier, la vengeance publique. Selon qu'en imagination, il se verra fort ou faible dans l'âme du délinquant et des spectateurs, sa vengeance sera plus exaspérée ou plus douce. Si ce genre d'imagination lui manque complètement, il ne songera pas du tout à la vengeance, car alors il ne possédera pas le sentiment de l'honneur, et on ne saurait, par conséquent, offenser chez lui le sentiment. De même, il ne songera pas à la vengeance lorsqu'il méprise l'offenseur et le spectateur de l'offense, car, attendu qu'il les méprise, ceux-ci ne sauraient lui donner de l'honneur et par conséquent ne saurait lui en prendre. Enfin, il renoncera encore à la vengeance dans le cas point extraordinaire où il aimerait celui qui l'offense. Peut-être, aux yeux de celui-ci, cette renonciation porte-t-elle préjudice à son honneur, et il se rendra ainsi moins digne de l'affection en retour. Mais renoncer à l'amour en retour, c'est là aussi un sacrifice que l'amour est prêt à porter, à condition qu'il ne soit pas forcé de faire mal à l'objet de son affection. Ce serait là se faire mal à soi-même, plus encore que ne lui fait mal ce sacrifice. Donc, chacun se vengera, à moins qu'il ne soit dépourvu d'honneur, ou plein de mépris, ou d'amour pour l'offenseur qui lui cause le dommage. Lorsqu'il s'adresse aux tribunaux, il veut aussi la vengeance en tant que particulier, mais de plus, en tant que membre de la société qui raisonne et qui prévoit, il voudra la vengeance de la société sur quelqu'un qui ne la vénère pas. Ainsi, par la punition juridique, tant la doctrine privée que la doctrine sociale sont rétablies, c'est-à-dire la punition est une vengeance. Il y a certainement aussi dans la punition cet autre élément de la haine décrit plus haut, en ce sens que, par la punition, la société sert à la conservation de soi et effectue la riposte pour sa légitime défense. La punition veut préserver d'un dommage futur, elle veut intimider. Donc, en réalité, dans la punition, les deux éléments si différents de la haine sont associés, et c'est peut-être ce qui contribue le plus à entretenir cette confusion d'idées, grâce à quoi l'individu qui se venge ne sait généralement pas ce qu'il veut. 34. Les vertus du préjudice. En tant que membre de certains groupements sociaux, nous croyons ne pas avoir le droit d'exercer certaines vertus qui, en tant que particulier, nous font le plus grand honneur et un plaisir sensible. Par exemple, la grâce et l'indulgence contre les égarés de toute espèce. Et en général, toute façon d'agir où l'avantage de la société souffrirait par notre vertu. Aucun collège de juges n'a le droit de faire grâce devant sa conscience. C'est au souverain seul, en tant qu'individu, que l'on a réservé cette prérogative et l'on se réjouit lorsqu'il en fait usage pour bien prouver que l'on aimerait bien faire grâce, mais non point en tant que société. La société ne reconnaît donc que les vertus qui lui sont avantageuses ou qui, du moins, ne lui portent pas préjudice, celles qui peuvent être exercées sans dommage ou même en portant des intérêts, par exemple la justice. Ces vertus du préjudice ne peuvent donc pas être nées dans la société, vu que maintenant encore, dans le sein de la moindre agglomération sociale qui se constitue, l'opposition s'élève contre elle. Ce sont donc là des vertus qui ont cours parmi les hommes qui ne sont pas égaux, des vertus inventées par l'individu qui se sent supérieur, des vertus propres au dominateur, avec cette arrière-pensée. Je suis assez puissant pour accepter un préjudice visible. C'est là une preuve de ma puissance. Par conséquent, une vertu voisine de la fierté. 35. Casuistique de l'avantage. Il n'y aurait pas de casuistique de la morale s'il n'y avait pas de casuistique de l'avantage. La raison la plus indépendante et la plus sagace ne suffit souvent pas pour choisir entre deux choses de façon à ce que le plus grand avantage ressorte du choix. Dans de pareils cas, on choisit parce qu'il faut choisir, et l'on est pris après coup d'une espèce de mal de mer du sentiment. 36. Devenir hypocrite. Tous les mendiants deviennent des hypocrites, comme tous ceux qui font leur profession d'une pénurie et d'une détresse, que ce soit une détresse personnelle ou une détresse publique. Le mendiant est loin d'éprouver sa détresse avec autant d'intensité qu'il est obligé de la faire éprouver s'il veut vivre de mendicité. 37. Une espèce de culte des passions. Vous autres obscurantistes et sournois philosophiques, vous parlez, pour accuser la conformation de tout l'édifice du monde, du caractère redoutable des passions humaines. Comme si, partout où il y a eu passion, il y avait aussi terreur. Comme si, toujours en ce bas monde, devait exister cette espèce de terreur. Par négligence dans les petites choses, par défaut d'observation de soi et d'observation de ceux qui doivent être éduqués, vous avez vous-même laissé grandir la passion jusqu'à ce qu'elle devienne un pareil monstre, au point que vous êtes déjà pris de crainte rien qu'à entendre prononcer le mot de passion. Cela dépend de vous et cela dépend de nous, d'enlever aux passions leur caractère redoutable et de faire en sorte qu'on les empêche de devenir des torrents dévastateurs. Il ne faut pas enfler sa méprise jusqu'à en faire la fatalité éternelle. Nous voulons au contraire travailler loyalement à la tâche de transformer en joie toutes les passions des hommes. 38. Le remords. Le remords est comme la morsure d'un chien sur une pierre, une bêtise. 39. Origine des privilèges. Les privilèges remontent généralement à un usage. L'usage à une convention momentanément établie. Il vous arrive une fois ou l'autre d'être satisfait des deux parts des conséquences qui résultent d'une convention intervenue et d'être aussi trop paresseux pour renouveler formellement cette convention. On continue ainsi à vivre comme si celle-ci avait toujours été renouvelée. Et peu à peu, lorsque l'oubli a jeté son voile sur l'origine, on croit posséder un édifice sacré et inébranlable, sur quoi chaque génération continue forcément à bâtir. L'usage est alors devenu une contrainte, lors même qu'il n'aurait plus l'utilité que l'on envisageait primitivement au moment où fut établie la Convention. Les faibles ont trouvé là de tous les temps leur solide rempart. Ils penchent à éterniser la Convention acceptée une fois, la grâce qu'on leur a faite. 40. La signification de l'oubli dans le sentiment moral. Les mêmes actions, inspirées d'abord dans la société primitive par l'utilité générale, ont été attribuées plus tard, par d'autres générations, à d'autres motifs, parce que l'on craignait et vénérait ceux qui exigeaient et recommandaient ces actes, ou par habitude, parce que dès son enfance, on les avait vus faire autour de soi, ou encore par bienveillance, parce que leur exercice amenait partout la joie et des visages approbateurs, ou enfin par vanité, parce qu'ils étaient loués pour cela. De pareilles actions dont on a oublié le motif fondamental, celui de l'utilité, sont alors appelées morales. Non peut-être parce qu'elles ont été faites par ces motifs différents, mais parce qu'elles n'ont pas été faites pour des raisons d'une utilité consciente. D'où vient cette haine de l'utilité qui devient ici visible, alors que toute action louable exclut littéralement de toute action en vue de l'utilité. Il est évident que la société, foyer de toute morale et de toutes les louanges en faveur des actes moraux, a eu à lutter trop longuement et trop durement avec l'intérêt particulier et l'entêtement de l'individu pour ne pas finir par considérer comme supérieur au point de vue moral tout autre motif que l'utilité. C'est ainsi que naît l'apparence qui fait croire que la morale n'est pas sortie de l'utilité, alors qu'en réalité, elle n'est pas autre chose au début que l'utilité publique qui a eu grand-peine à se faire valoir et à se faire prendre en considération contre toutes les utilités privées. 41. La richesse morale par succession. Il y a aussi une richesse par succession sur le domaine moral. Elle est possédée par les gens doux, charitables, bienveillants, compatissants, qui ont hérité de leurs ancêtres tous les bons procédés, mais n'ont point la raison qui en est la source. L'agrément de cette richesse, c'est qu'il faut la prodiguer sans cesse si l'on veut en faire éprouver les bienfaits, et qu'elle travaille ainsi involontairement à réduire les distances entre la richesse et la pauvreté morale. Ce qu'il y a de plus singulier et de plus excellent, c'est que ce rapprochement ne se fait point en faveur d'une moyenne future entre pauvres et riches, mais en faveur d'une richesse et d'une abondance universelle. C'est de cette façon que l'on peut résumer à peu près l'opinion courante sur la richesse morale par succession. Mais il me semble que cette opinion est maintenue plutôt in maiorem gloriam de la moralité qu'à l'honneur de la vérité. L'expérience, du moins, établit un axiome qui, s'il n'est pas une réfutation de cette généralité, peut du moins être considéré comme une restriction significative. Sans une raison choisie, dit l'expérience, sans la faculté du choix le plus subtil et une forte disposition à la mesure, ceux qui possèdent une richesse morale par succession deviennent des gaspilleurs de la moralité. En s'abandonnant sans retenue à leurs instincts de pitié, de charité, de bienveillance et de conciliation, ils rendent tout le monde autour d'eux plus négligent, plus exigeant et plus sentimentale. C'est pourquoi les enfants de pareils gaspilleurs très moraux sont facilement et malheureusement au meilleur cas des propres ariens faibles et agréables. 42. Le juge et les circonstances atténuantes. Il faut aussi être honnête envers le diable et payer ses dettes, se prit à dire un vieux soldat lorsqu'on lui a raconté un peu en détail l'histoire de Faust. Faust doit aller en enfer. « Vous êtes terribles, vous autres hommes !» s'écria sa femme. « Comment est-ce possible? Il n'a pas fait autre chose que de manquer d'encre dans son encrier. Certainement, c'est un péché que d'écrire avec du sang, mais ce n'est pas assez pour condamner un aussi bel homme à subir les tortures de l'enfer. » 43. Problème du devoir de la vérité. Le devoir est un sentiment impérieux qui pousse à l'action, un sentiment que nous appelons bon et que nous considérons comme indiscutable. Nous ne parlons pas, et il ne nous plaît pas que l'on parle de ses origines, de ses limites et de sa justification. Mais le penseur considère toute chose comme le résultat d'une évolution et tout ce qui est devenu comme discutable. Il est par conséquent l'homme sans devoir tant qu'il n'est que penseur. Comme tel, il n'accepterait donc pas non plus le devoir de considérer et de dire la vérité, et il n'éprouverait pas ce sentiment. Il se demanderait « D'où vient-elle? Où va-t-elle ? » Mais ces questions elles-mêmes sont considérées par lui comme problématiques. Or, n'en résulterait-il pas que la machine du penseur ne fonctionnerait plus bien s'il pouvait vraiment se considérer comme irresponsable dans la recherche de la connaissance? En ce sens, on pourrait dire que pour alimenter la machine, il est besoin du même élément qui doit être examiné au moyen de celle-ci. La fortune pourrait peut-être se résumer ainsi. En admettant qu'il existe un devoir de reconnaître la vérité, quelle est alors la vérité par rapport à toute autre espèce de devoir? Mais un sentiment hypothétique du devoir n'est-il pas un non-sens? 44. Degré de la morale. La morale est d'abord un moyen pour conserver la communauté d'une façon générale et pour la préserver de sa perte. Elle est, en second lieu, un moyen pour conserver la communauté à un certain niveau et pour lui garder certaines qualités. Les motifs de conservation sont la crainte et l'espoir, des motifs d'autant plus puissants et d'autant plus grossiers que le penchant vers les choses fausses, exclusive et personnelle, est encore très vif. Il faut se servir ici des moyens d'intimidation les plus épouvantables, tant que des moyens plus bénins ne font aucun effet, et tant que cette double manière de conservation ne se laisse pas atteindre autrement. Un de ces moyens les plus violents, c'est l'invention d'un au-delà avec un enfer éternel. On a besoin de tortures de l'âme et de bourreaux pour exécuter ces tortures. D'autres degrés de la morale, moyens pour arriver au but indiqué, sont représentés par les commandements d'un Dieu, tels la loi mosaïque. D'autres encore, degrés supérieurs, par les commandements d'une idée du devoir absolu, avec le fameux « tu dois ». Ce sont là des degrés assez grossièrement taillés, mais des degrés larges, attendu que les hommes ne s'entendent pas encore à poser leurs pieds sur des degrés plus étroits et plus délicats. Vient ensuite une morale du penchant, du goût, et enfin celle de l'intelligence, qui est au-dessus de tous les motifs illusionnaires de la morale, mais qui s'est rendu compte que longtemps il n'a pas été possible à l'humanité d'en avoir d'autres. 45. La morale de la compassion dans la bouche des immodérés. Tous ceux qui ne possèdent pas assez eux-mêmes et qui ne voient pas dans la moralité une constante domination de soi exercée sans cesse, en grand et en petit, deviennent involontairement les glorificateurs des impulsions de bonté, de compassion et de bienveillance, particulières à cette moralité instinctive qui ne possède point de tête, mais qui semble être composée seulement d'un cœur et de mains secourables. C'est même dans leur intérêt de mettre en suspicion une moralité de la raison et de vouloir donner une valeur universelle à cette autre moralité. 46. Cloaque de l'âme. L'âme, elle aussi, doit avoir ses cloaques particuliers où elle fait écouler ses immondices. Bien des choses peuvent servir à cela. Des personnes, des relations, des classes sociales, peut-être la patrie ou encore le monde. Ou enfin, pour les plus orgueilleux, je veux dire nos bons pessimistes modernes, le bon Dieu. 47. Une façon de repos et de contemplation. Prends garde à ne pas faire ressembler ton repos et ta contemplation à ceux du chien devant l'étalage d'un boucher. La peur ne lui permet pas d'avancer, le désir l'empêche de reculer, et il ouvre de grands yeux qui ressemblent à une gueule béante. 48. Une défense sans raison. Une défense dont nous ne comprenons ou n'admettons pas les raisons est presque un ordre, non seulement pour l'esprit obstiné, mais encore pour celui qui a soif de connaissance. On tient à essayer pour apprendre ainsi pourquoi l'interdiction a été faite. Les défenses morales, comme celle du Décalogue, ne peuvent compter que durant les époques où la raison est assujettie. Maintenant, une défense comme « tu ne tueras point » ou « tu ne commettras point adultère » présentée ainsi sans raison aurait plutôt un effet nuisible qu'un effet utile. 49. Caractéristiques. Quel est l'homme qui peut dire de lui-même « il m'arrive très souvent de mépriser, mais je ne hais jamais. Chez chaque homme, je trouve toujours quelque chose que l'on peut honorer et à cause de quoi je l'honore. Ce que l'on appelle les qualités aimables m'attire peu. » 50. Compassion et mépris. Manifester de la compassion, c'est regarder comme un signe de mépris, car on a visiblement cessé d'être un objet de crainte dès que l'on vous témoigne de la compassion. On est alors tombé au-dessous de l'équilibre, tandis qu'en réalité, ce niveau ne suffit point à la vanité humaine, et que seule la prépondérance et la crainte que l'on inspire procurent à l'âme le sentiment le plus désiré. C'est pourquoi il faut se poser le problème de savoir comment est née l'évaluation de la pitié et comment il faut expliquer les louanges que l'on prodigue maintenant au désintéressement. Dans l'état primitif, on méprise le désintéressement ou on en craint les embûches. 51. Savoir être petit. Près des fleurs, des herbes et des papillons. Il faut savoir s'abaisser à la hauteur d'un enfant qui les dépasse à peine. Mais nous autres, gens âgés, nous avons grandi au-dessus de ces choses, et il nous faut nous courber jusqu'à elles. Je crois que les herbes nous haïssent lorsque nous avouons l'amour que nous avons pour elles. Celui qui veut prendre part à toutes les bonnes choses doit aussi s'entendre à avoir des heures où il est petit. 52. L'image de la conscience. L'image de notre conscience est la seule chose qui, pendant les années de notre jeunesse, nous a été demandée régulièrement et sans raison par des personnes que nous vénérions et craignions. C'est donc de la conscience que vient ce sentiment d'obligation. Il faut que je fasse telle chose, que je ne fasse pas telle autre, qui ne demande pas pourquoi, il faut qu'il en soit ainsi. Dans tous les cas, où une chose est faite avec pourquoi et parce que, l'homme agit sans conscience. Mais ce n'est pas encore une raison pour qu'il agisse contre sa conscience. La foi en l'autorité est la source de la conscience. Celle-ci n'est donc pas la voix de Dieu dans la poitrine de l'homme, mais la voix de quelques hommes dans l'homme. 53. Les passions surmontées. L'homme qui a surmonté ses passions est entré en possession du sol le plus fécond, de même que le colon qui s'est rendu maître des forêts et des marécages. Semer sur le terrain des passions vaincues la semence des bonnes œuvres spirituelles, c'est alors la tâche la plus urgente et la plus prochaine. Surmonter n'est là qu'un moyen, ce n'est pas un but. Si l'on envisage autrement cette victoire, toutes sortes de mauvaises herbes et de diableries se mettent à foisonner sur le sol fécond mis ainsi en friche. Et bientôt, tout cela se met à pousser et à se pousser avec plus d'impétuosité encore que précédemment. 54. L'habileté à servir. Tous les gens que l'on appelle pratiques ont une habileté particulière à servir. C'est cela précisément qui les rend pratiques, soit pour les autres, soit pour eux-mêmes. Robinson possédait un serviteur meilleur encore que vendredi. C'était Crusoé. 55. Danger du langage pour la liberté intellectuelle. Toute parole est un préjugé. 56. Esprit et ennui. Le proverbe, le magyar est bien trop paresseux pour s'ennuyer, donne à réfléchir. Ce ne sont que les animaux les mieux organisés et les plus actifs qui commencent à être capables d'ennui. Quel beau sujet pour un grand poète que l'ennui de Dieu au septième jour de la création. 57. Les rapports avec les animaux. On peut observer la formation de la morale dans la façon dont nous nous comportons vis-à-vis des animaux. Lorsque l'utilité et le dommage n'entrent pas en jeu, nous éprouvons un sentiment de complète irresponsabilité. Nous tuons et nous blessons, par exemple, des insectes, ou bien nous les laissons vivre sans généralement y songer le moins du monde. Nous avons la main si lourde que nos gentillesses à l'égard des fleurs et des petits animaux sont presque toujours meurtrières, ce qui ne gêne nullement le plaisir que nous y prenons. C'est aujourd'hui la fête des petits animaux, le jour le plus accablant de l'année. Voyez comme tout cela grouille et rampe autour de nous, et, sans le faire exprès, mais aussi sans y prendre garde, nous écrasons, tantôt par ici, tantôt par là, un petit ver ou un petit insecte empenné. Quand les animaux nous portent préjudice, nous aspirons par tous les moyens à leur destruction. Et ces moyens sont souvent bien cruels, sans que ce soit là notre intention. C'est la cruauté de l'irréflexion. Si par contre ils sont utiles, nous les exploitons, jusqu'à ce qu'une raison plus subtile nous enseigne que chez certains animaux, nous pouvons tirer bénéfice d'un autre traitement, c'est-à-dire des soins et de l'élevage. C'est alors seulement que naît la responsabilité. À l'égard des animaux, on évite les traitements barbares. Un homme se révolte lorsqu'il voit quelqu'un se montrer impitoyable envers sa vache, en conformité absolue avec la morale de la communauté primitive, qui voit l'utilité générale en danger dès qu'un individu commet une faute. Celui qui, dans la communauté, s'aperçoit d'un délit, craint pour lui le dommage indirect. Et nous craignons pour la qualité de la viande, la culture de la terre, les moyens de communication, lorsque nous voyons maltraiter les animaux. De plus, celui qui est brutal envers les animaux éveille le soupçon qu'il est également brutal vis-à-vis des faibles, des hommes inférieurs et incapables de vengeance. Il passe pour manquer de noblesse et de fierté délicate. C'est ainsi que se forme un commencement de jugement et de sens moral. La superstition y ajoute la meilleure part. Certains animaux incitent l'homme par des regards, des sons et des attitudes à se voir transporté en imagination dans le corps de ceux-ci. Et certaines religions enseignent à voir parfois dans l'animal le séjour des âmes des hommes et des dieux. C'est pourquoi elles recommandent de nobles précautions et même une crainte respectueuse dans les rapports avec les animaux. Lors même que cette superstition aurait disparu, les sentiments éveillés par elle continuent leur effet, mûrissent et portent leurs fruits. On sait qu'à ce point de vue, le christianisme a montré qu'il était une religion pauvre et rétrograde.